Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Roland Gillet, professeur d'économie financière à Paris-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. Il publie le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France, dans le nouvel ordre mondial, dans la collection Alpha. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Ça va être compliqué, nous disait Roland Gillet, pour la BCE de ne pas suivre finalement son mandat et la question des anticipations d'inflation. Dans mon esprit, les anticipations d'inflation, Roland, elles étaient plus plutôt contenu, encore
mais,
aujourd'hui.
Mais le problème, c'est ce que je vous dis, malgré ça, pour le moment, on a de la chance. Je parle pour les contribuables. Sur le coût des dettes publiques, c'est que pour le moment, on a quand même des investisseurs très sympathiques. Hein. Comment est-ce que vous voulez que j'explique à un étudiant que quelqu'un est sûr de perdre de l'argent quand les taux d'intérêt sont négatifs? Il est tout aussi sûr, pour le moment, étant donné l'inflation et ce qu'il a comme rémunération, qu'il s'appauvrit également. Donc, si c'est de la rationalité, elle est imposée. Alors, un impôt, on est obligé de le payer. Ici, on n'est pas obligé de dire à tout le monde, écoutez, rendez-vous compte pour le moment que c'est probablement moins pire en termes de volatilité de détenir des obligations. Et encore, l'année dernière, on a vu qu'elles pouvaient perdre autant que les actions, en moyenne. Mais de l'autre côté, on est aussi tous d'accord de dire, à partir du moment où je m'investis dans quelque chose où je suis déjà en train de perdre en pouvoir d'achat, c'est pas très malin non plus. Donc, si demain, des gens, les investisseurs se disaient, tiens, réveillons-nous un petit peu, tant que je n'ai pas au moins une compensation pour l'inflation, je ne veux plus d'obligations d'État dans mon portefeuille, je pense qu'il se passerait des choses beaucoup moins agréables pour le financement des États.
Il y a évidemment, mais il y a des quantités d'investisseurs et de gros qui ont l'obligation de détenir une certaine quantité d'obligations d'État.
Non, mais oui, mais c'est pas... Il y a quand même une forme de rationalité, parce que ce qui compte, c'est quand même les anticipations d'inflation.
Oui.
La perte sur les obligations d'État, en termes réels, elle serait avérée si l'inflation restait à 5 ou 6% jusqu'à la fin de la maturité de l'obligation. C'est-à-dire 10 ans, 20 ans, 30 ans pour certaines obligations. Or là, y a un certain nombre d'investisseurs qui anticipent que cette inflation va être plutôt faible, retourner à 2% dans les, disons, 2 années qui viennent. Et à ce moment-là, ils ne perdent pas d'argent dans ce cas-là.
C'est la seule chose dont on est au moins certain, c'est si on ne se trompe pas sur l'anticipation d'inflation qui est faite par le taux d'intérêt. Or, aujourd'hui, on sait que si les taux sont si bas, c'est le Baxter européen qui a été mis en place, le quantitative easing, et le fait que pendant la crise, malgré...
Non, mais les investisseurs restent libres aujourd'hui de prendre des obligations. Ils ne sont pas forcés.
Non.
Donc, OK, ils ne peuvent pas négocier le prix parce qu'il y a le quantitative easing, mais ils acceptent et ils continuent à acheter de la dette publique, au-delà des obligations réglementaires qu'ils ont, qui ne sont pas si contraignantes que ça.
Donc, dette publique fait encore envie.
Oui, mais il y a quand même une rationalité derrière ça, qui est ces anticipations d'inflation. On ne peut pas dire aujourd'hui, un investisseur, il achète de la dette publique, il perd de l'argent. C'est pas vrai.
Non, j'ai dit avant, quand les taux d'intérêt négatifs, là, vous êtes certain si vous
avez fait l'échéance. Voilà. Après, moi, je pense que la Banque Centrale Européenne, elle va devoir quand même un peu reconsidérer sa position. Une inflation qui ralentit et des économies qui ne sont pas en surchauffe de l'autre côté, la situation européenne est très différente de la situation américaine. Le taux de chômage n'est pas à 3%. La croissance, elle est à tonne, on va dire.
Pas à 2,5.
Elle n'est pas à 2,5. Elle est pratiquement à zéro pour la zone euro. C'est difficile de dire dans ce contexte-là, inflation qui ralentit, croissance faible et marché du travail à tonne. C'est difficile de dire, je continue ma politique monétaire parce que j'ai peur d'inflation de second tour.
On avait le gouverneur de la Banque des Pays-Bas qui disait récemment qu'il y avait encore 2 hausses de taux, que c'était terminé. Voilà. Sous-entendu, on va arriver à 3,75.
Mais c'est ce que je pense.
Et on les garde comme ça pendant un an ou deux. Oui, Christian Saint-Etienne là-dessus.
Techniquement, sur ce point, le raisonnement de Roland a été impeccable, sous réserve de l'anticipation d'inflation sur le moyen terme. Ce que je crains, c'est qu'il y ait des... Alors, les... les investisseurs sont peut-être rationnels si les anticipations d'inflation sont bien orientées, mais je crains qu'il y ait une petite pointe d'irrationalité dans le comportement de la Banque centrale. Parce que ici comme d'autres, mais même sur cette antenne, il y a 3 ans, je disais que la Banque centrale avait tort de garder les taux si bas aussi longtemps.
Beaucoup l'ont dit, c'est vrai.
Ce que je pense, c'est que pour se rattraper, elle les remonte trop vite. Donc, il se peut qu'il y ait un petit mécanisme de ce type. Le deuxième élément qui m'inquiète le plus, c'est que sur ces sujets-là, à cause des stocks d'obligations, mais aussi à cause du marché du logement, il y a un effet stock lié à la remontée des taux qui doit être prise en compte et qu'il n'a pas été suffisamment. On l'a vu en Angleterre, où la Banque d'Angleterre a été obligée d'intervenir en urgence absolue.
Ben sinon, c'était les fonds de pension qui étaient au tapis.
Parce que sinon, les fonds de pension étaient insolvables. Donc, je pense que compte tenu de ce qu'a rappelé Xavier, c'est-à-dire une économie européenne atone, des prix de l'immobilier qui commencent à baisser, nous devrions faire ce qui vient d'être annoncé ce matin par la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire une pause probable dans la hausse des taux américains au mois de juin. Je pense que la Banque centrale européenne, compte tenu des effets stock que je rappelle et du ralentissement de l'économie, devrait se donner 2 ou 3 mois pour continuer d'observer les conséquences de la très forte remontée des taux qu'elle a mise en œuvre. Alors si à l'automne,
on n'a jamais connu une hausse des taux aussi violente.
Voilà, elle a été. Et justement, avec un effet stock considérable derrière. Donc, effectivement, je pense qu'on a besoin d'une pause pour analyser les conséquences de ce qui a été fait dans les 12 derniers mois.
Sachant qu'on considère qu'il faut 12 à 18 mois pour avoir les pleins et les effets à plein des décisions de hausse de resserrement monétaire.
D'autant plus que, vous le dites à juste titre, 12 à 18 mois de lag, de délai, bon, ça peut même monter à 24 mois, mais surtout, on n'a jamais monté les taux aussi vite avec des stocks de dettes aussi élevés. Il y a 30 ans, on n'avait pas des stocks de dettes avec cette ampleur.
Mais il y a une explication, Roland Gillet, sur le fait qu'on ait des stocks de dettes aussi élevés.
Oui, et juste un point aussi, c'est pour les banques. Je dis de manière, le secteur financier, on a bien vu d'ailleurs, même s'il devrait se couvrir, même s'il y a des stress tests et ainsi de suite, des remontées très fortes comme ça sur le stock et en marché.
C'est ce qu'a mis en l'air la banque SVB.
Vous me faisiez remarquer justement à propos de la dette, parce qu'on se demande pourquoi est-ce que tout quasiment est financé par la dette aujourd'hui en Europe. Les États, mais également la sphère privée. Et vous avez une explication très rationnelle.
J'essaye en tous les cas, mais ce que je comprends, c'est il y a comme un peu le théorème de Pythagore, quelque chose qu'on utilise encore partout en finance et en comptabilité, c'est le théorème de Modigliani-Miller. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais Modigliani, manifestement, il avait au moins compris une chose, c'est qu'on ne crée pas de la valeur par la structure financière, donc on sort des temps ou pas, sauf si un acteur vous y aide. Et il y a un acteur qui aide, par exemple les entreprises, à privilégier la dette. C'est le fait qu'on peut déduire fiscalement les intérêts sur cette dette. Donc l'État en prend une partie à sa charge, alors que pour la rémunération, pour les dividendes ou pour ce qui revient aux fonds propres, il n'en est rien. Donc clairement,
L'État va se servir.
Voilà. Et si vous avez la même chose pour une dépense très importante dans certains pays au niveau de l'achat des particuliers, donc des ménages, c'est le crédit immobilier quand on achète sa maison. Là aussi, dans certains pays, dont le mien, il y avait un bonus fiscal qui venait sur une prise en compte par l'État d'une déduction fiscale sur les intérêts de cette dette. Donc, quand l'État se dit « Tiens, pourquoi ces gens continuent-ils à s'endetter ?» Ben, il y a déjà le fait qu'il réduit mécaniquement le coût par rapport aux fonds propres. Même si ceux-là en ont peu, quand ils utilisent la dette, ça coûte moins cher. Alors, ce qui est merveilleux, ça c'est l'effet de second tour que je dirais ailleurs, c'est qu'à cause du fait que les dettes deviennent de plus importantes au niveau des États, étant donné la crise de 2008 et la suite, par le quantitative easing, on dit qu'on doit faire baisser la dette, le coût de la dette de l'État pour qu'elle soit plus soutenable, évidemment, sachant qu'il n'y a que les intérêts de la dette qui rentrent dans le budget. La dette, elle, c'est dans le bilan, mais il n'y a pas de bilan d'État. Donc, clairement, on fait ça, et mécaniquement, tous les autres taux aussi baissent. Donc, vous avez encore la partie qui vient par le financement par dette, qui est encore moins chère. Et puis alors, je vois certains hommes politiques qui me disent « Mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils s'endettent tous comme moi ?» Ben parce que je suis l'instigateur des règles du jeu qui fait que le coût de la dette coûte moins cher. Or, je vais vous dire quelque chose qui va sûrement vous étonner. J'ai jamais vu mourir une entreprise parce qu'elle avait trop de fonds propres. Trop de dettes, oui. J'ai vu des ménages surendettés qui sont morts aussi, en Espagne notamment après une crise immobilière, parce qu'ils étaient trop endettés aussi, et à long terme. Et donc, clairement, aujourd'hui, les règles du jeu sont telles que le principal acteur parle lui-même sur sa dette. Est-ce que vous connaissez, je prends mes collègues à témoin, quelqu'un qui dit un acteur privé, que ce soit un ménage ou une entreprise, moi, ma dette, elle est juste soutenable. Moi, j'ai jamais entendu ça, elle est bien gérée. Ici, on en est là, quoi. C'est la soutenabilité de la dette dans certains pays. Aujourd'hui, c'est même pas de dire elle est bien ou mal gérée. Donc, clairement, je pense qu'aujourd'hui, le coût de cette dette amenée par le quantitative easing pour que les dettes publiques soient soutenables a créé aussi un effet pour les acteurs privés. Vous savez, quand on voit certains qui achètent leur maison quand c'est la leur, vous prenez la publicité que vous entendez toujours à la TV ou dans les médias. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Si vous faites que ce coût-là qui vient s'ajouter à l'achat de votre maison est moindre, vous poussez les gens à avoir un taux d'endettement plus élevé. Donc je pense que c'est assez mécanique. Par contre, je ne pense pas que ce soit tout à fait anormal. Et de se poser la question de savoir maintenant comment on pousse un peu plus les gens à avoir un peu plus de fonds propres dans toutes leurs activités et les États être plus raisonnables sur certaines dépenses. On y viendra peut-être après entre investissement et dépenses sociétales. Je pense que c'est vraiment essentiel.
Est-ce qu'il faut craindre Standard & Poor's, selon vous, Xavier Thimbaud ? C'est demain. Demain, on aura... Alors, il y a eu quelques éléments de communication de la part de Bercy en voulant donner des signes de bonne conduite pour les finances publiques 2024. Enfin, bon, des signes de bonne conduite avec des petits pourcentages de coupes de dépenses. Et voilà, demain, on aura le verdict de S&P. On parlait de soutenabilité. La soutenabilité, c'est l'instant où vous n'êtes plus en capacité de rembourser ce que vous étiez en capacité de rembourser la veille.
Oui, on pourrait le définir comme ça. Mais je pense que malgré tout, la question de soutenabilité, c'est le bon concept. Si on a laissé les dettes augmenter après la crise de 2008, en fait, c'est parce qu'on a voulu qu'elles augmentent et qu'on a voulu que ce soutien à l'économie soit apporté par effectivement l'endettement. Et après, effectivement, quand on atterrit de ce genre de situation, se pose le problème que Christian évoquait, qui est que on a des stocks élevés et que du coup, manipuler l'instrument de taux doit être fait avec beaucoup de doigté. C'est pas que ça ne doit pas être fait, c'est que ça doit être fait avec beaucoup de doigté, parce que on a des effets de stock qui vont jouer énormément et qui peuvent aller jusqu'à provoquer des situations d'insoutenabilité et qui, elles, à ce moment-là, génèrent des crises qui vont demander qu'on réendette derrière et on peut ne pas sortir au bout du compte de tout ça. Alors après, est-ce que on doit craindre la dégradation de la dette par Standard & Poor's de la dette souveraine française ? Bon, le risque de défaut de la dette souveraine française aujourd'hui, en 2023. Il est extrêmement faible. On peut dire la dette a augmenté, donc mécaniquement le risque de défaut a augmenté. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Si on compare le risque de défaut de la France aujourd'hui en 2023 par rapport à ce qu'il était en 2007, bah on peut dire dans l'intervalle, il s'est quand même créé une doctrine en Europe autour de le whatever it takes sur l'euro. La oui. Banque centrale européenne a pris un rôle,
est là et qu'elle agira,
un rôle particulier. Et de ce point de vue-là, tout le monde semble d'accord en Europe par ailleurs sur cette doctrine, c'est-à-dire personne ne la conteste, ou en tout cas vraiment très silencieusement aujourd'hui. Et donc de ce point de vue-là, institutionnellement, malgré le quasi-doublement de la dette publique, en fait, malgré tout ça, on peut dire, un, la dette publique française est plus soutenable, mais en fait elle est aussi plus soutenable parce que la dette publique italienne, espagnole sont plus soutenables, que le risque d'éclatement de la zone euro est plus bas. Et que, du coup, le scénario dans lequel un État européen ferait défaut est un scénario qui, aujourd'hui, devient moins probable.
Non, mais je comprends. Voilà. Vous me décrivez, Donc, vous me décrivez un parapluie de l'euro et une BCE assureur en dernier ressort qui fait que le pire n'est plus envisageable.
Voilà. Après, ce que va faire Standard & Poor's...
Je pense que c'est la réalité, en fait.
Ce que va faire Standard & Poor's, c'est qu'elle va comparer 2023 à 2022 en disant, 2023 par rapport à 2022, on a des taux d'intérêt un peu plus élevés, on a un peu moins de croissance, on a une situation sociale un peu dégradée. Bon, tout ça, c'est moins bien, forcément. Donc, on ne peut pas améliorer la situation de la France. Voilà.
Too big to fail. Plein de pays sont too big to fail.
Pour vérifier qu'on est tous d'accord, le risque évoqué ici, c'est de passer de double A à double A moins.
Oui. C'est ce genre de choses.
Voilà.
Ça. Alors, on reste quand même à un restaurant 2 étoiles.
Il se trouve que... Comme je suis passé par le FMI et le CDE, j'ai toujours dans ma poche le tableau des notations. Alors en fait...
Vous avez toujours les notations des trois principales agences, d'accord.
Voilà, enfin le barème.
Oui.
Le barème est en fait un barème sur 20 notes. On est noté de 1 à 20. Et donc, en réalité, passer de double A à double A moins, c'est passer de 17 à 16, sachant que le tableau se divise en deux parties, 10 notes en investissement et 10 notes en spéculatif. Donc là, il s'agit de passer de 17 à 16. Alors, je pense que ce qu'a dit Xavier sur la probabilité de défaut est juste. Néanmoins, il y a un effet réel très important, c'est que si les taux, malgré tout, augmentent, et que la charge d'intérêt payés par l'État augmentent dans un contexte où, par ailleurs, l'État doit réduire le déficit public, ça veut dire qu'il y aura un effet d'éviction, non pas sur le privé, mais un effet d'éviction sur la bonne dépense. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une enveloppe qui sera contrainte de dépenses publiques, si on paye plus d'intérêts, ben on aura moins d'argent pour investir sur les écoles, les routes, la réindustrialisation. Donc ça, cet effet, il m'inquiète beaucoup, parce que récemment, la charge de la dette, c'était 2 points de PIB. Si on remonte à 3 points, historiquement, on a été à certaines périodes à 4 points de PIB, 5 points de PIB. Donc,
on a eu 5 points de PIB de charge.
Mais on était à plus de 4 en tout cas. Oui. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, enfin, il y a fortement d'inflation. Un point de PIB de plus de service de la dette dans un contexte où il y a une contrainte sur l'enveloppe de dépenses, ça va provoquer un effet d'éviction sur ce qu'on peut appeler la bonne dépense.
On n'a pas vu d'effet sur le taux à 10 ans de la France après les décisions de Fitch.
Mais on peut
se dire que même s'il y avait un passage à sous surveillance négative ou ce genre de choses, même pas forcément sans un changement de note, peut-être que l'effet serait tout à fait égal à zéro.
Mais on a un avantage.
Pour clore le sujet, là.
On a juste un avantage, c'est que sur le stock de dette, il n'y a que pour la nouvelle dette émise qu'on a les effets. Les États, les dernières années, étant très contents de voir des taux d'intérêt négatifs, ont allongé la dette, la durée moyenne de la dette. Et donc, sur le stock, ça mettra un certain temps.
Ça met un certain temps à se diffuser.
Mais enfin, comme on l'a dit, il faut quand même y être attentif.
À part que maintenant, les grosses attaques contre les obligations indexées sur l'inflation.
Oui, ça, c'est une imbécilité de mon point de vue.
Ah oui, mais enfin, à côté de ça, tout le monde s'en est réjoui qu'il n'y avait pas d'inflation.
Ah non, moi, il y a 5 ans, je disais que c'était une bêtise parce qu'on refaisait l'emprunt Giscard, qui était indexé sur l'or, et on a remboursé 5 fois le capital. Donc, alors là, je vais être très direct. Malheureusement, je connais bien les acteurs de ce sujet. Nous n'avons jamais eu, malheureusement, à la tête du Trésor français, des gens qui sont capables d'intégrer l'environnement économique. C'est une direction et une gestion de la dette qui est très technique. Et au moment où on a sorti les obligations indexées sur l'inflation, ça paraissait très malin. Mais ça s'est beaucoup développé dans les 10 dernières années. Ça apparaissait très malin. Et puis en plus, dans les dîners en ville à Paris, vous dites, oh, moi j'aimais de l'obligation indexée sur l'inflation. Vous faites votre petit effet pendant 2 minutes. Et c'est les Français qui vont payer pendant 30 ans.
Je suis pas sûr qu'il y ait un effet waouh. Quand on dit dans un dîner en ville qu'on indexe une obligation sur l'inflation.
Mais ça dépend
de qui est dans le dîner.
Ça dépend des gens.
C'est pas forcément les plus rigolables.
Remarquez, il n'y a que probablement sur BFM Business qu'on a un débat entre OAT, OATI, faites vos jeux. C'est pas vraiment une question. Est-ce que vous voudriez que la...
Enfin, c'est une question à plusieurs milliards d'euros.
Oui. Le gros de la déformation négative de la charge de la dette en 2022, elle a été liée finalement à ce stock d'OATI qui est à peu près de 11%.
Alors, puisqu'on a la chance d'être sur BFM Business et de pouvoir parler de ça,
aussi.
Je suis sensible à un point qui a été évoqué par Xavier. Ça va être intéressant de voir sur 5 ans comment évoluent ces OATI ? Parce qu'effectivement, il faudra faire l'analyse sur une durée.
Totalité.
Peut-être que dans 3 ans, on dirait que c'était pas trop catastrophique si l'inflation.
Oui, parce qu'on a un premium quand on fait des OATI, c'est-à-dire on paye un peu moins cher que le taux d'une obligation non indexée. Et puis là, on va payer plus cher parce que il y a eu un épisode d'inflation et donc on pourra faire le bilan
Mais
le premium qu'on a eu.
Mais enfin, le principe était quand même dangereux dès le départ.
Allez-y, le
danger surtout, c'est qu'on ne sait jamais au départ combien ça va coûter puisque on est lié à une obligation à taux fixe.
On aurait posé la question en 2015, tout le monde aurait applaudi les OAT.
Ah non, moi j'ai pas.
Pas vous. Est-ce que la France est un pays libéral, Xavier Thimbault ? Vous savez, il y a eu cette polémique. Alors, vous connaissez notre niveau de dépenses publiques.
C'est le bon interlocuteur.
Notre niveau de dépenses. Public, notre niveau de prélèvement obligatoire, l'État à peu près omniprésent dans tout ce qui se passe, dans les tarifs régulés de ceci, les tarifs régulés de cela, l'encadrement des loyers, un système d'État-providence dont l'INSEE nous a rappelé récemment à quel point il réduit les inégalités, et pourtant on entend encore ce mot de libéral.
Moi je vois ce débat tout le temps sur Twitter, à la télévision, sur les chaînes d'infos, etc., avec des arguments qui me paraissent pas toujours très très bien construits. Alors, est-ce que la France est un pays libéral au sens hayekien, avec un interventionnisme de l'État réduit et, la réponse est non. La France s'enorgueillit d'avoir un État présent et surtout un système de protection sociale qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale. Pour assurer la cohésion sociale, hein. C'est-à-dire c'était pas par folie socialiste.
Par des générales de Gaulle d'ailleurs.
Oui.
Non, mais
le Conseil national de la résistance.
Tout le monde était d'accord.
Non, mais
tout le
monde était d'accord. D'ailleurs, dont l'efficacité est régulièrement saluée, elle l'a été récemment par une enquête de l'INSEE.
Et c'est pas une folie socialiste au sens, la volonté de faire advenir la société utopiste de demain. Bon, ok, ça c'est la France dans laquelle on vit et qu'on connaît. Ensuite, par rapport à ça, il faut pas négliger aujourd'hui qu'il y a un débat extrêmement actif sur ce système va trop loin ou ce système ne va pas assez loin.
Un débat.
Non, mais justement. Par ailleurs, il y a aussi des politiques qui sont faites soit pour renforcer ce système, soit, quand il y a des alternances politiques, pour vouloir en limiter la portée, en limiter le coût, en conditionner l'accès à des gens qui auraient la bonne nationalité ou qui auraient la bonne tête. Bon, c'est un débat qui existe. On peut dire
que
quand on a
une...
Oui, non, mais Nicolas, le problème, c'est qu'il ne faut pas le juger en statique en disant « Est-ce que la France est libérale ?» Ça n'a pas de sens de dire ça. La France, elle est ce qu'elle est et on a tout un tas d'indicateurs qui permettent de le dire objectivement. Mais après, on peut dire à quelqu'un la politique que tu proposes ou que tu mets en œuvre est d'inspiration libérale au sens où elle vise à détricoter ce système de protection sociale français pour l'amener vers autre chose.
Le mot détricoter après, est toujours un...
C'est un débat dans lequel on a tendance à s'envoyer des noms d'oiseaux et à s'accuser de tout et de rien. Et donc, mais je pense qu'on ne peut pas répondre à... Quand cette personne accuse de néolibéralisme quelqu'un, elle n'est pas néolibérale parce que la France... Alors regardez le taux de prélèvement, il est tellement élevé que ça nous garantit qu'on n'est pas néolibéral. Si un pays dans lequel vous avez un taux de prélèvement très très élevé, une protection sociale très développée, et où vous mettez Margaret Thatcher qui vous détricote tout ça, devient un pays, en tout cas, qui est soumis à des politiques néolibérales. Ça, je pense que
Margaret Thatcher, on l'a pas eu donc.
Non, mais dans toutes les explications historiques les analyses historiques de qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme, un des exemples, c'est Margaret Thatcher.
Oui, et Ronald Reagan.
Et Margaret Thatcher, je vous rappelle, elle a appliqué ses politiques dans un pays dans lequel l'État était omniprésent, dans lequel la protection sociale était très développée, dans lequel le pouvoir des syndicats était très grand.
Ce qui m'a frappé,
et c'est précisément parce qu'elle voulait les démanteler qu'on a pu qualifier ces politiques de néolibérales. Donc, le point de départ ne nous dit rien de la direction dans laquelle on va.
Elle a été élue 3 fois, quand même. Hein.
Mais je juge pas, Nicolas.
Vous voulez dire un mot sur la hausse?
Oui, c'est très important. Allez-y.
Juste un mot.
Vous voulez qu'on parle de l'EDUF en Bretagne?
Oui,
pas le temps.
Mais de nouveau.
Allez-y.
Ce débat-là, je le vois dans toutes les capitales où je suis.
Dans toutes les capitales.
Y compris à Bruxelles, y compris au Conseil européen. C'est où est-ce qu'on met la barre et comment est-ce qu'on définit l'endroit où on se trouve par rapport à la barre. C'est exactement ce que vous venez de dire.
Je suis
tout à fait d'accord. Par contre, allez dire que ceci. Parce qu'au départ, vous avez une connotation qui laisse croire qu'on est beaucoup dans l'assistanat, et je sais que ce n'est pas un beau mot, et que quelqu'un ne peut pas à un moment donné avoir une politique libérale dans un tel pays, ou en tous les cas mener une politique qui peut le laisser croire, ça n'a juste pas de sens. Chacun a des idées qui sont plus d'un côté que de l'autre. Par contre, c'est vrai que laisser fonctionner l'économie, par rapport à la prégnance de l'État les dernières années depuis les dernières crises, c'est clair que l'État a joué un rôle hyper important. Donc on sait déjà qu'il y a plus d'État aujourd'hui, et que ce soit dans la régulation bancaire, que ce soit dans la régulation tout court, que ce soit dans l'aide à l'économie. On l'a dit tout à l'heure, et j'ai tout cela, je partage totalement votre opinion. L'État n'est pas venu avec des sommes sur la table qui augmentaient sa dette parce qu'il avait le plaisir de le faire. C'est les conséquences maintenant pour le détricotage qui me font plus peur, comme on l'a dit tout à l'heure.
Ça vous fait réagir ce éternel débat et débat.
Oui, mais c'est un débat fondamental.
Dans tous les pays.
Hein. Mais je ne vais pas développer parce que vous me taperiez sur les doigts, Nicolas. Mais vous avez le libéralisme, c'est deux choses. C'est le libéralisme politique et le libéralisme économique. Donc là, on parle surtout sur le libéralisme économique. La question, c'est est-ce que la France est une démocratie politique libérale au sens de la révolution des Lumières du 17e, 18e. Donc on l'est encore, sauf quand on a des débats comme ceux de l'Assemblée actuellement, ou quand il y a une disposition qui est permise par la réglementation de la Constitution, enfin, à la fois par la Constitution, l'article 49.3 ou d'autres dispositions internes au Parlement, on considère qu'il y a un coup d'État quand on applique la Constitution. Donc là, c'est un point central sur l'état de droit. Alors sur le système économique, effectivement, il y a le point de départ et l'évolution, mais en sous-jacent, il y a une question centrale qui est de savoir est-ce que le système économico-social est fondé sur une vision déterministe de l'homme ou sur une vision de libre-arbitre. Donc si c'est déterministe, on verse un revenu minimum à tout le monde, parce que ça permet à tout le monde de vivre du seul fait qu'il soit né. En revanche, si vous êtes dans une vision où l'individu a une part de responsabilité très importante dans ses actions et dans ce qu'il est, à ce moment-là, vous avez une vision différente. Or, de ce point de vue, quand vous analysez l'évolution générale du système économico-social français, que la droite ou la gauche gouverne, ça ne change rien, c'est plutôt une vision déterministe qu'on a. Alors, il y a la seule exception, ça serait le conditionnement de certaines aides sociales, mais autrement, mais c'est d'ailleurs conditionné sur le revenu et pas d'autres facteurs jusqu'ici. Donc, la France n'est pas, sur le plan économico-social, un pays libéral. On a un système politique de démocratie libérale, mais l'application économico-sociale n'est pas libérale. Donc, et puis, quand même, pour finir, sur le cinéma, qui est porté massivement par l'argent public, se plaindre qu'on est dans un système néolibéral.
Mais je pense pas qu'ils se plaignent. Je pense que
elle a condamné une France néolibérale.
Mais c'est pas se plaindre, ça. C'est utiliser sa position pour donner son opinion.
Dans un secteur hyper subventionné.
Non, mais on est quand même dans une démocratie libérale où, pour le coup, les opinions sont respectables et respectées.
Quand on parle à partir d'un secteur où on est massivement aidé par l'État, ça devrait quand même conduire à faire attention aux mots qu'on utilise.
Il n'y a pas beaucoup de secteurs aussi subventionnés que le secteur.
Non, mais qui a dit. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez la possibilité de le dire.
Oui, mais ça, c'était c'est
Voltaire.
Dans un contexte.
C'est Voltaire, oui.
Mais c'est dans un contexte.
Il n'a pas dit comme ça, mais.
Oui, mais c'est ça l'idée.
Oui, mais c'est dans un contexte où si vous prenez le cinéma et si vous enlevez l'aide de l'État, il n'y a plus de films.
Bon, écoutez, merci.
Seuls les films qui rencontrent une adhésion des spectateurs.
On s'y attendait, mais on n'a pas le temps de réagir, mais le DUF a donc renoncé à implanter son usine de viennoiserie Bridor en Bretagne, après 6 ans de procédure. 6 ans de procédure, des résistances de riverains, des résistances d'ONG, des résistances d'écologistes. Après, on veut de l'industrie. Bah, voilà. Bon, merci à vous tous d'avoir été là. Roland Gillet, Christian Saint-Etienne, Xavier Thimbault.